Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins,
sur les chemins, sur les chemins,
à bicyclette,
à bicyclette,
à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Bonjour et bienvenue à tous sur votre antenne préférée Radio G, il est l'heure Monseigneur sur 101.5. Alors aujourd'hui, on est une équipe un peu virile, hein. Il manque Josiane à l'équipe.
La touche douceur.
Ouais. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Bonjour Ricardo.
Bonjour.
Et bonjour Marc.
Bonjour Raphaël.
Bon, comme à notre habitude, on doit trouver un personnage mystère, hein, c'est la nouvelle formule de cette saison. Et comme d'habitude, on a des indices pour nous aider à identifier ce personnage mystère qui a été choisi, je le précise aujourd'hui, par Jean-Jacques. Le premier morceau de musique, alors Jean-Jacques n'est pas au courant des morceaux qui vont passer. Le premier morceau, il s'agit de Cet enfant-là par Virginie Ledoyen. Et en fait, elle chante Barbara. On l'écoute tout de suite. C'était Virginie Ledoyen qui interprétait Cet enfant-là de Barbara.
Est-ce que c'est la manière de chanter?
Alors non.
Mais c'est, je suis de parler.
Vous savez combien je suis très tordu et en fait je commence par la fin.
T'es tordu.
Puisque Virginie Ledoyen est née le 15 novembre 1976 et il se trouve que c'est le jour du décès de notre invité mystère. Voilà.
Donc, 73.
Voilà. 76.
Et là tu peux même déjà l'avoir.
Donc.
Si. Quand je vais te dire ça, ça, tu vas voir, ça va flasher, Marc.
Bon, voilà, ça parle un peu plus comme indice.
Ah bah évidemment.
Bon, tu veux nous en dire quelque chose justement?
Alors, je vais peut-être. Est-ce que je dis tout? Oh oui, non. On va s'amuser. En fait, un grand monsieur, grand acteur respecté et admiré par d'autres grands acteurs. Victor Hugo a dit à propos de sa propre naissance, ce siècle avait 2 ans. Il était né en 1801. Non, 2, pardon. Notre personnage mystère, lui, aurait pu dire que pour sa propre naissance, le siècle suivant avait 4 ans. Enfin, il fut désespérément aimé par une dont Jean Cocteau disait que son nom commençait comme une caresse et s'achevait sur un coup de cravache.
Une miss?
C'est un personnage masculin.
Oui.
Oui, j'ai dit il, oui.
Oui, non, mais j'ai entendu une miss à la fin. Donc
non. Je dis, il fut désespérément aimé par une dont Jean Cocteau disait que son nom commençait comme une caresse et s'achevait sur un coup de cravache.
Ah oui.
Ah oui.
Voilà, bon, ça calme un peu ça. Ouais. On en dit un petit peu plus tout à l'heure.
Tu fais moins le malin. Hein.
C'est un jockey.
Pour l'instant,
la seule jockey que je connais, c'est encore en vie.
Ouais. Bon, c'est Ricardo et Marc n'y sont pas encore.
On n'y est pas encore, mais.
Non, mais l'année, c'est important. 76, ça, c'est excellent.
Bon, je voulais vous proposer une petite chronique à l'ancienne, un pour ou contre.
Ouais,
ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça.
Tu as envie de nous embrouiller, c'est sûr que ça.
Non, alors l'idée c'était effectivement de débattre ensemble du pour ou contre le rationnement, puisque c'est un peu d'actualité malheureusement sur certains produits. Alors c'est pas vrai partout sur le territoire français, mais c'est le cas de plus en plus. Et là où moi ça m'interpelle, c'est qu'effectivement ça nous rappelle quelques heures sombres de l'histoire. Pour autant, est-ce que le rationnement, vous y êtes favorable? Est-ce que vous y voyez une privation de liberté? Est-ce que vous y voyez une opportunité de partager? Comment vous percevez les choses?
Moi, je dirais que le rationnement, je le mets en asymétrie. Enfin, en face, je mets l'abondance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, enfin, notre génération, les gens qui vivent maintenant, voilà, les linéaires sont pleins, ils sont approvisionnés, on se pose jamais de questions. Et puis quand le pot de moutarde n'est plus dans le linéaire, on se rend compte que c'est pas si simple qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que derrière, il y a des productions, il y a des enjeux économiques, il y a du commerce. Et puis là, on prend conscience que l'abondance, à un moment donné, c'est pas pour l'éternité. Et c'est cette prise de conscience, moi, que je trouve intéressante. Après, pour ou contre le rationnement, il y a un moment donné où s'il s'impose à nous et qu'il dure dans le temps, et comment on va faire pour se partager les pots de moutarde?
Alors, tu parles de la moutarde, mais ce que les auditeurs ne voient pas, c'est qu'il s'est badigeonné aujourd'hui de moutarde.
C'est un clin d'œil. Mais voilà, donc voilà, je lance un peu la réflexion par rapport à ça. Mais enfin, moi, c'est ce que je ressens personnellement.
Oui, non, mais pardon. Le souci, comme tu disais, on a été dans la surproduction. En fait, surproduction et surconsommation. Mais j'ai l'impression que on était dans le capitalisme à bout de sens et on produisait d'où tout le gâchis d'ailleurs qu'on a au niveau alimentaire un petit peu partout. Et nous, on va dire un petit peu en aval, on est dans la surconsommation en tout. Et c'est vrai qu'on se posait pas beaucoup de questions. Il y en a qui se posaient des questions, mais pas assez. Et aujourd'hui, je trouve que ce rationnement, ça s'impose à nous. Même, je pense que si l'humain, évidemment, on cherche toujours notre confort. Ça s'est imposé à nous. C'est même plus aujourd'hui, c'est même plus un choix. Je pense que ça se fait tout seul et ça doit se faire tout seul en fait. Après, le seul souci, c'est que je ne jette pas forcément. Enfin, je pointe pas du doigt l'Europe, mais l'Europe ou l'Amérique, enfin les pays très développés ont été dans cette phase d'abondance et de surconsommation pendant très longtemps. Et maintenant, il y a plein de pays en voie de développement ou qui ne sont pas forcément en voie de développement, comme la Chine, voilà, qui découvrent cette surconsommation, cette abondance, et on leur dit ah non. Maintenant, il faut couper. Il faut se rationner. Et je ne suis pas sûr que ces pays-là soient prêts à l'entendre. Donc du coup, nous, alors il faut le faire en Europe, hein, mais nous, quand on est en train de le faire ici, pas au niveau de la planète, hein, tout ce qui génère la pollution et tout, si de l'autre côté, ça ne suit pas forcément où la Chine est encore je prends la Chine pour exemple, mais j'aurais pu prendre d'autres pays, hein, mais en termes de volume de population, et enfin c'est quand même une masse très très importante. Donc oui, si la Chine continue ou d'autres pays comme ça continuent à être dans cette surproduction, surconsommation ou surpollution pour d'autres choses, je vais déborder un petit peu, mais je sais pas ce que ça, il y a pas de petit effort, mais je sais pas ce que ça vaut en fait dans la balance.
Après, là où je te rejoins pas, Ricardo, c'est que finalement ça c'était valable quand le moteur économique était la consommation, effectivement, mais aujourd'hui le rationnement il s'opère sur des produits de première nécessité.
Oui, mais chez nous, je ne suis pas sûr qu'en Chine ils soient dans le même débat de, bon, je prends l'exemple de la moutarde par exemple, je suis pas sûr qu'ils soient dans ce manque là aujourd'hui, où on va parler de la puce électronique automobile. Jean-Jacques ?
Non, moi je dirais, on a un train de retard. Je veux dire, il suffisait de voir un peu ce qui se passait dans d'autres pays depuis des décennies. Je veux dire, c'était pas la surconsommation. Il y avait pas, quand tu allais dans certains pays, les rayons des grandes surfaces ou des magasins, c'était pas loin d'être rempli. Donc je veux dire, on était des cas à part. Je veux dire que le problème, c'est que, bon, moi, je me souviens, c'était d'un temps autrefois où on parlait de la fin dans le monde. J'entends plus la fin dans le monde. Mais je veux dire, il y a eu quand même un sacré... Et est-ce qu'on en a pris conscience? Est-ce qu'on a fait des choses? Alors, on a fait des choses avec des associations qui sont impliquées dedans. Mais c'est vrai que on aurait pu penser qu'un jour, on arriverait peut-être à avoir des problèmes, justement. Je veux dire, on n'a jamais essayé... Alors, bon, on dit toujours, vous savez... vaut mieux apprendre à pêcher à la personne plutôt que de lui
donner directement le poisson.
Mais je veux dire, ce problème-là de la surconsommation et de la
surproduction.
La surproduction. Mais je veux dire, bon, on sait bien le côté offre et la demande. Je veux dire, c'était pas un problème. C'était pas du tout c'était une chose qui était inconnue dans les autres pays, dans d'autres pays. Alors moi, bon, je me rappelle des images affreuses, abominables au niveau du Biafra, vous vous rappelez, dans les années.
Nigeria,
enfin bon, il y a eu plein de choses. Bon, en dehors du fait qu'il y avait des guerres, mais en plus, bon, c'était la fin. Et je veux dire qu'on n'en est pas là, mais il y en a encore qui en sont là, et qui sont loin de ce genre de problématiques que l'on a, nous, là.
Ouais, mais je pense aussi que c'est aussi le moment de prendre conscience que l'alimentation, c'est quand même un élément de base de la sécurité de l'être humain, la nourriture. Et la nourriture, elle tombe pas du ciel dans les magasins. Elle est produite par une agriculture, et voire une industrie agroalimentaire. Et cette agriculture-là, si on veut la dégager de ce qui a fait la possibilité de production, c'est-à-dire les produits, les intrants, ce qu'on appelle les intrants dans le jargon des agriculteurs, c'est-à-dire les produits phytosanitaires et les engrais, eh bien, si on veut quitter ces moyens-là, et on va automatiquement à une baisse de production. On gagne en qualité, mais on baisse en production. Donc il va falloir aussi, je pense, s'habituer à ça. C'est-à-dire que nous, dans nos pays, avoir peut-être l'alimentation peut-être en moins grande quantité et plus chère, et faire en sorte que on puisse ne pas la gaspiller. Parce que quand même, ce que tu disais tout à l'heure, Ricardo, 30% en des pays occidentaux, enfin en Europe, 30% de l'alimentation produite est jetée dans les poubelles. Donc c'est là que je pense que alors il faut notamment dans notre sphère à nous, c'est un changement de comportement. C'est ça qui fera la différence. Un changement de comportement. Monsieur Cluzel, là, le climatologue, je lisais cette réflexion là qu'il a faite là dans un journal il y a deux jours. Il disait, je ne vois pas comment on peut arriver à une évolution par rapport aux limites de la planète si on ne change pas nos comportements. Et ça, je pense que ça me paraît extrêmement difficile compte tenu du conditionnement qu'on a.
Il faut, mais le souci, on revient toujours à la même question, est-ce que l'être humain est prêt à renoncer à son confort. Enfin, l'être humain, et surtout dans les pays développés, oui, oui. Parce que comme on disait tout à l'heure, dans le tiers monde, la question ne se pose pas. Faut déjà le confort, faut l'avoir. Bon, même si c'est pas toujours, il y a des gens qui vivent un petit peu trop aisément dans ces pays-là aussi, hein, oui, oui. Et c'est souvent une mauvaise répartition des richesses. Oui. Mais c'est la question. Chaque fois on dit oui. Par exemple, la production. Et l'électronique, les portables chaque année, que ça pollue un petit peu trop, ou voilà. Et on dit oui, il faut. Et on dit aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes prêt à renoncer à votre portable pour, enfin voilà. Les uns peut-être extrêmes, puisque aujourd'hui c'est quand même un moyen de communication très utile. Mais là, le souci, c'est est-ce que l'être humain est prêt à renoncer à son propre. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut.
Le monde est pour le changement, mais personne n'est pour changer.
Voilà, c'est ça. Tu as bien résumé ce que je voulais dire, en fait.
Raphaël, à ta question d'origine, c'est-à-dire le rationnement, est-ce que tout le monde est prêt à se rationner? Est-ce que les efforts vont être vraiment partagés? Tout le monde, ça.
Après, c'est le côté équitable. Oui. Est-ce qu'on partage le rationnement? Le vrai sujet.
Pense que si on pose la question, tout le monde dira oui. Bah, évidemment, ça va du bon sens. Mais dans les efforts réellement, il y a combien de personnes qui le fait, en fait? C'est ça le souci. Qui sont prêts à le faire.
Les granulés à bois, là, je regardais chez Leroux Merlin. Je voyais les gens avec les caddies. Ils ont été obligés de dire pas plus de 10 paquets de ce qu'ils appellent ça des pelets, là, des granulés, par client. Mais je suis sûr qu'il y en a qui reviennent tous les jours le caddie.
Après, cela dit, effectivement, ce sont des biens difficiles à quantifier parce que ça passe pas l'hiver, hein, 10 petits sacs, hein.
Oui, ça, c'était, on a vu quand on avait annoncé le confinement, la ruée des gens vers les supermarchés pour tout dévaliser. Je pense que ou même avec les moutardes ou de l'huile ou je sais pas quoi, où les gens c'est ce qui me
On
le voit bien, rien qu'avec le rationnement d'essence en ce moment. Ouais. Les gens qui arrivent boum en cachette et qui viennent remplir leur truc et tout ça. Là.
Je pense que si tout le monde joue le jeu, tout le monde essaie de prendre juste ce qu'il faut à un moment donné, on ne créerait pas certaines pénuries aussi rapidement.
Moi, je pense que l'important, c'est de prendre conscience des limites. Oui. Et je pense qu'on est dans une période où on commence à prendre conscience que tout n'est pas illimité, qu'on est dans des limites à beaucoup de points de vue, et le mot sobriété apparaît. Alors espérons que...
Bon, nos chroniqueurs sont intarissables. Hein.
Alors, je dis quelque chose à Marc, peut-être que je ferai peut-être ma chronique la prochaine fois sur les poils à granulés. j'en ai une sous
ça.
Il
n'y a pas de transition.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Je vous propose de faire une petite pause musicale. Jean-Jacques, tu sais que notre personnage avait été chanteur?
Évidemment.
Bon, alors on va écouter une chanson interprétée par Jean-Jacques Debout. Je ne sais pas si ça va mettre nos auditeurs sur la piste. Ça s'appelle Le jour se lève. À tout de suite.
La ville est endormie et que le printemps sourit sur la montagne Sainte-Geneviève, le jour se lève. Je vais sur l'île Saint-Louis y retrouver mon ami, embrasser ses jolies lèvres, le jour se lève. Mes mains caressent son corps dans ce tout nouveau décor, allongé l'un près de l'autre dans la joie d'un tendre duo. Quand la ville est endormie, le petit jour vient aussi. Une fille ouvre sa fenêtre, le jour se lève. Le café du croissant, le regard d'un étudiant revit la mort de Jaurès, le jour se lève. Paris devient intemporel et ma joie de vivre est réelle. Depuis que je l'ai rencontré, il n'y a que du présent, il n'y a plus de passé. Quand la ville est endormie, le clocher de Saint-Sulpice sonne la fin d'une fête, le jour se lève. Dans la rue Servandoni, je retrouve mon taudis et regarde tomber la neige, le jour se lève. Je vis un vrai conte de fées, n'en reviens pas de sa beauté. Dîner dans les petits bistrots, épaule contre épaule, comme c'était rigolo. Quand la ville est endormie et que le printemps sourit, je mesure le temps passé quand on s'aimait. Pour ces années d'insouciance passées au cœur de la France, ne dure que les rêves, le jour se lève.
Donc c'était Jean-Jacques Debout avec Le jour se lève. Alors, est-ce que tu nous donnes quelques indices complémentaires?
Chanson qu'il faut écouter bien assis.
Alors, donc cette chanson s'appelait Le jour se lève. Il y a un film, Le jour se lève, tourné en 1939, et mon personnage mystère jouait dans ce film. Hein, donc ça vous situe un petit peu le truc. Hein. Tu me diras quand je donnerai le nom à ce moment-là, et après j'expliquerai un petit peu mes arguments peut-être.
On peut en donner d'autres.
En off, on a réussi à le deviner avec d'autres indices supplémentaires.
Dire un petit peu.
Alors, j'ai donné comme indice hors antenne à Ricardo l'indice suivant, c'est qu'il n'a pas joué dans les Tontons Flingueurs. Et c'est vrai que quand on a formulé le personnage mystère, je croyais qu'il en avait fait partie, mais non.
Ah non, on le pense. Par contre, son grand ami Lino Ventura y était.
Ah oui, Lino.
Qu'est-ce qu'on peut dire, que il a joué avec Bourville, il a joué avec De Funès,
ouais, il a joué avec tous les
avec
plus grands
Fernandel,
de son époque.
Bah, oui, tout le monde a joué. Vous voulez jouer avec lui. Hein.
On peut dire qu'à ses débuts, c'était un titi parisien quand même.
Alors, au début, d'abord, il avait une. C'était un chanteur de music hall.
Avec la casquette.
Avec la casquette, c'était dans la lignée des Maurice Chevalier, des Charles Trenet, tout ça. Et je veux dire, il a commencé à tourner dès le début des années 30. Après, il y a eu des classiques du cinéma, quoi.
Bon, j'ai concocté pour tout à l'heure un petit extrait de film avec, pour moi, la réplique la plus célèbre.
Alors, c'est vrai qu'il y en a une. Oui, c'est vrai. La plus célèbre, certainement. Oui. C'est certainement. Je l'ai, je crois, celle-là.
Et oui, on peut dire qu'il a été chanteur. Donc là, on a pris Jean-Jacques Debout. J'ai pas trouvé beaucoup d'enregistrements de qualité, puisque on l'a dit, hein, Le jour se lève, c'est une chanson de 1939. Donc
tu veux dire chantée par mon personnage principal?
Oui.
Ah, il y en a une la plus connue.
Oui, mais je l'ai. Je l'ai, on va l'écouter dans quelques instants.
J'espère. Hein,
mais on sait bien, toi et moi. Et voilà. Donc, Marc, toi, le personnage, on l'a identifié. Tu as des indices à nous donner aux auditeurs? Une petite anecdote?
Moi, l'image que j'ai, c'est...
Un titre de film
Je vois des images de films, parce que moi, je suis très dans les images. Et c'est en tant que autour d'un train. Il y a un film
Tiré de Zola, La bête humaine.
La bête humaine. Et là, j'ai un souvenir. Il est extraordinaire dans ce film. Hein. C'est un magnifique film.
De toute façon, il est extraordinaire beaucoup de films. Dans des styles différents, d'ailleurs.
Oui, dans des styles différents.
Parce que soit il est très très malheureux, soit il est très méchant, soit il est complètement canaille. Voilà.
C'est quand même c'est quelqu'un qui aimait la campagne. Il habitait.
Mais la campagne lui a pas vraiment rendu.
Non, mais il a été embêté, oui, parce que les paysans, ils aiment bien la terre, donc ils aiment pas être dérangés. Hein.
Absolument.
Même si c'est par des acteurs. Célèbres. Alors,
des chiffres à faire pâlir, Alexandre, Jean Dujardin ou d'autres comédien plus moderne, il a fait des millions et des millions d'entrées. Hein. Il y a un des films, on va dire Les Misérables, je crois, qui a fait 9 millions d'entrées.
Alors,
l'offre des films à l'époque était moins prolifique qu'aujourd'hui, évidemment.
Oui, mais on n'était pas aussi autant sur la planète.
On n'a fait aucune gaffe, pour l'instant, on n'a pas prononcé son nom.
Non, c'est extraordinaire. Hein.
J'allais le dire là, et je dis, mais c'est vrai qu'avant, on disait, on va aller voir un film avec mon personnage. Oui, alors que autant on a dit le dernier Belmondo, le dernier de Funès, on a dit aussi évidemment.
Bon, je vous propose d'écouter l'extrait que j'ai sélectionné et puis nos auditeurs, j'espère que ça va leur donner des images.
Ouais, je pense que
on va le dévoiler après.
Je pense que la plupart ont déjà trouvé.
Oui, je pense.
On se retrouve tout de suite après.
T'as pas faim ?
Non, j'ai envie de rien. Je suis bien.
Ouais. T'es bien avec moi?
Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, ben, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Élie.
Embrasse-moi.
Donc c'était Le Quai des Brumes avec...
Avec Jean Gabin. Et Michel Morgan. Donc Jean Gabin, c'était mon personnage principal. On va peut-être expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que quand je disais, Cocteau avait dit de la dame qu'il a beaucoup, beaucoup aimé, désespérément, parce qu'en fait, vous savez, bon, il était avec Michel Morgan, puis ensuite il est parti pendant la guerre, il a suivi Marlène Dietrich aux États-Unis, il a tourné quelques films. Hein.
Ça n'a pas été un grand succès, outre-Atlantique.
Pas des grands succès, je suis en conviens. Mais bon, Marlène Dietrich était quand même quelqu'un de très volage, enfin très... Bon, elle avait une réputation...
C'était une femme libérée.
C'est une dévoreuse, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et je veux dire que Gabin, il l'a pas trop apprécié. Donc, je veux dire que... Eh bien, il est parti... D'abord, il s'est engagé. Donc, il a fait la guerre. Il est revenu... Il a participé à la libération. Hein. Et puis, ben, quand il est revenu en France, après, bon, il s'est vite rangé. Bon, il avait une... Sa carrière est devenue un peu différente. Hein. Je veux dire que, d'abord, il est revenu de la guerre, il a les cheveux blancs. Alors que quand il était parti, avant, dans les années 30, c'était un jeune premier, quoi. Enfin, c'était avec des beaux yeux bleus. Pas ceux de Michel Morgan, mais il avait de beaux yeux bleus aussi. Hein. Et puis ensuite, il est revenu. Ça a été assez difficile pour lui. Il a fait une deuxième carrière et même une troisième carrière plus tard. Voilà. Mais je veux dire que... Et Marlène Dietrich, donc, cette fameuse actrice, très très grande actrice, mondialement connue, était très très amoureuse de lui. Donc elle a voulu le suivre en France et tout ça. Et je veux dire, elle est morte à Paris, sauf erreur de ma part. Il y avait quelques personnes qui allaient lui rendre visite, mais elle était à Paris parce qu'elle était près de Jean Gabin. Et un jour, alors, je vais faire le rapprochement avec la chanson de tout à l'heure de Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout racontait un jour que, bon, ils étaient à dîner et tout ça, et que, à un moment donné, Marlène Dietrich, qu'il connaissait aussi, hein, a dit à Jean-Jacques, Jean-Jacques Debout a été voir Gabin, a dit, vous savez, ou je sais pas, tu sais, Marlène est dans le restaurant.
Alors là, mon petit gars, tu sais.
Et en fait, apparemment, donc lui, il l'avait toujours dans le machin, tout ça. Il était passé à autre chose. Il s'était marié avec un mannequin et tout ça. Il avait des enfants. Et tout ça. Et il dit, oh, c'est le chleu. Enfin, cette chleu, elle me gonfle. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Et je veux dire, c'est dur, quoi. C'est dur. Mais cette femme, elle est restée à Paris. Elle est morte dans les années 70. Hein,
Bon, c'était un homme à femme aussi. Hein. Il a eu plusieurs épouses.
Non.
Ah si.
Ah bon?
Oui, il me semble. Hein.
Moi, je crois qu'il s'est marié uniquement qu'avec que dans les années 50. Hein, ouais. Il était assez âgé. Hein, il a fait des enfants à ce moment-là, mais je suis pas sûr qu'il soit marié. Alors, il a eu plein de copines.
Hein, des conquêtes. Hein,
Ah ouais, Mireille Balin. Bon, il y a eu même Michel Morgan, bien sûr. C'était un grand amour aussi. Hein.
Mistinguette.
Ah c'est ouais bah Mistinguette c'était pareil hein, c'était un petit peu comme Marlène Dietrich, mais dans les années 20. Quoi.
Alors la Mistinguette, on a perdu Ricardo. Mais oui.
Elle avait de belles gambettes.
Alors justement, je vous propose d'écouter tout de suite une chanson par Jean Gabin. Voilà, Je sais.
Que je ne sais.
Je sais.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour. Quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.
C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais.
Allez, Jean-Jacques, tu voulais nous ajouter quelque chose?
Non, je disais quoi au fait? Non, je disais cette chanson, justement, bon, c'est une adaptation, en fait, c'est pas une chanson originale. Le texte a été fait par Jean-Loup Dabadie, qui a fait pas mal de scénarios de films et des chansons pour Julien Clerc, pour des grands. Mais, je veux dire, là, c'est une chanson américaine, alors, qui s'appelait But I know, enfin voilà, c'était peut-être les mêmes textes après. Et d'ailleurs, c'est vrai, je me suis aperçu quand même que toutes ces chansons, toutes les chansons des années 60, les twists, les machins, tout ça, qui étaient chantées par nos vedettes, les yéyés, quoi, c'était toutes des adaptations, mais souvent, le texte se rapprochait énormément du texte original. Enfin, avec des paroles qui pouvaient être cucu, mais les paroles d'origine étaient cucu aussi.
Tu veux dire que dans le showbiz, il y aurait quand même une dimension universelle?
Bah, c'était beaucoup de reprises, donc...
Absolument.
Bon. On va enchaîner avec ta chronique du UFC Que Choisir. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale Jean-Jacques, hein. On va le faire intervenir beaucoup.
C'est vrai. Alors j'ai dit à Marc tout à l'heure que je ferais peut-être un truc sur les poils à granuler, donc je pense que je le ferai. La recharge de véhicules électriques. Ah, les voitures électriques se vendent très bien, mais le marché reste freiné par les prix et les changements de pratiques. Beaucoup d'automobilistes s'interrogent sur le problème de recharge. Une enquête de Que Choisir fait le point sur l'expérience de ceux qui ont sauté le pas. Les ventes de véhicules électriques ont certes explosé, mais cette tendance ne concerne pas encore la majorité des utilisateurs. Les prix restent élevés et la recharge est souvent un problème. Pour beaucoup d'utilisateurs, le véhicule électrique est réservé aux trajets de proximité, travail, course, loisirs. Près de 80% d'entre eux disposent toujours d'un véhicule à moteur thermique pour les grands trajets. Selon l'enquête menée par Que Choisir auprès de 1500 lecteurs, le réseau des bornes de recharge demeure insuffisant. Les trois quarts des répondants déclarent compter sur leur propre prise installée au domicile, le plus souvent sans travaux ou abonnements supplémentaires. Ainsi, avec 2 à 3 recharges par semaine, leur coût de trajet est de 2,50 € pour 100 km, soit 4 à 5 fois moins qu'avec le carburant. C'est nettement plus cher avec une borne publique, mais la différence reste avantageuse. En définitive, les usagers sont très peu nombreux à utiliser fréquemment les bornes du réseau public. Près de la moitié n'y vont jamais. Et moins de 5% en usent plusieurs fois par semaine. Ces bornes publiques se répartissent entre celles des collectivités et hypermarchés, plus de la moitié, et celles de Tesla et Ionity, respectivement pour environ 15%. Les bornes Tesla sont les plus appréciées parce qu'elles sont ultra rapides, mais compatibles seulement pour la marque. Cette couverture est jugée très insuffisante par les usagers. Mais ils se disent aussi très déçus de la fiabilité, avec de trop fréquentes pannes et incidents, reconnaissance du badge ou de la voiture. Au-delà de ces problèmes de jeunesse, les possesseurs se déclarent satisfaits de leurs achats, en dépit de ce souci d'autonomie et d'incertitude sur la recharge en extérieur. Les principaux avantages cités sont la fiabilité, absence de panne, et le coût d'entretien peu élevé.
Merci Jean-Jacques. Bon, on en discutait un petit peu tout à l'heure.
Mais ça va évoluer très vite, cette situation, parce que ça, c'est une chronique, bon, qui a quelques semaines, et je pense qu'on en parle beaucoup, 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 et ça va évoluer, ça va...
Après, on en parlait un petit peu tout à l'heure, juste avant l'émission, effectivement. Alors, moi, je roule en diesel, je plaide coupable, votre honneur.
Mais fouettez-le.
Voilà. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai pas le sentiment de polluer parce que mon véhicule, je vais pas le changer sous prétexte qu'il est au gasoil. Il consomme 4 litres au 100. Voilà, c'est un petit véhicule et je pense que c'est bien aussi de pas toujours renouveler. On parlait de surconsommation tout à l'heure, de surproduction. Le bilan carbone du véhicule électrique, il est un peu mitigé aussi quand même.
Que vont devenir les piles ?
En fait, c'est la production de batterie. Que je pense dans quelques années, on aura peut-être le même débat sur ce que ça, c'est ça plus devient propre. La production, les centrales électriques, l'énergie, là. Mais il est quand même sûr que aujourd'hui, si on limite le débat à la pollution directe, bien évidemment, le véhicule électrique
c'est plus propre à l'usage,
est propre pour nos poumons, on va dire.
Ouais. Après, c'est effectivement de ce que on croit savoir, c'est qu'il y a un petit désastre écologique autour des batteries. Hein. Effectivement, l'extraction des minerais fait que ça dénature certains pays. Et puis, il faut qu'on apprenne encore à recycler ces fameuses batteries.
Oui, tout à fait.
Est-ce que le prix de te parler Jean-Jacques, des prix des véhicules?
Ne pose pas de colle là.
Non, mais c'est vrai qu'on dit, ben ça, c'est vrai que par rapport au coût de mon litre de gasoil ou d'essence, par rapport au prix de l'électricité actuellement, parce que l'électricité, c'est quand même aussi.
Non mais
ça va peut-être pas durer l'électricité au prix où on l'a. Donc il y a aussi l'achat de la voiture. Et donc lorsque on raisonne par rapport à l'utilisation d'un véhicule. Il faut non seulement penser à la consommation, mais il faut penser à l'achat du véhicule.
Il y a quand même pas mal.
Alors, je ne sais pas si, au niveau actuellement, mais ça peut évoluer, mais
aussi.
Je ne sais pas si ramener à l'ensemble du coût, du coût au kilomètre que je fais, est-ce que actuellement l'électrique est pertinent sur le plan strictement financier.
Alors, je t'ai coupé, excuse-moi.
Non, vas-y, Ricardo.
Non, juste ça, c'est quand même beaucoup démocratisé, on va dire. Oui. Au niveau de la production, il y a pas mal de production électrique aujourd'hui, et il y a pas mal d'aides aussi gouvernementales. C'est peut-être, ça va peut-être pas durer, c'est peut-être le moment pour la transition écologique.
Cette discussion-là, elle va évoluer, comme je le disais. Je veux dire, imagine, on en aurait parlé il y a 6, 8 mois, 10 mois. Je veux dire, le problème de l'électricité n'existait pas encore. Et là.
Ah oui, mais
il y a vraiment des arguments.
On
mais
est dans
ça
un monde
évoluer,
qui
ira encore.
On est dans un monde du changement. Le changement est permanent. Avec quand on voit actuellement la géopolitique, enfin ce qui se passe, ça ébranle beaucoup de certitudes. Donc voilà, mais c'est une piste, c'est sûr.
C'est vrai que le monde change. Hein. Quand tu penses que dans ma grotte il y a même pas l'électricité.
Non, mais je pense que.
De Cro-Magnon.
Personnellement, dans nos sociétés de consommation, on pense que les choses vont durer, perdurer, mais non. c'est
la révolution va se faire progressivement.
Les choses changent en permanence.
Déjà, les moteurs thermiques, c'est fin 2035, si j'ai pas de bêtises, en Europe. Oui. Hein. Donc, le renouvellement du parc sera électrique par nature.
Mais tout ça, je me dis, si on avait anticipé et de loin et de loin, parce que dès les débuts des années 70, on parlait.
On avait tous les éléments.
Le solaire. Je veux dire, je pense qu'on serait arrivé certainement à une utilisation du soleil. Les panneaux solaires qui auraient été beaucoup plus performants et beaucoup plus petits.
Oui, mais est-ce que ça arrange tout le monde? Parce que ceux qui produisent le carburant, c'est quand même un lobby derrière, il faut qu'ils le vendent.
Mais j'en parle pas.
Non, mais c'est confréné, c'est clair. C'est évident.
On n'a jamais eu les moyens qu'il fallait.
Parce que les informations, moi je me souviens, j'étais étudiant à l'époque, dans les années 70, j'ai lu des bouquins, mais les fameux bouquins dont on parle actuellement, et je me souviens, le titre du livre, c'était « Quelles limites ?» Et il parlait des limites justement au développement continu, une croissance continue jusqu'où on ne savait pas. Et il parlait déjà, il faisait ça en relation avec les moyens dont la Terre nous mettrait à disposition. Alors la technologie, oui, mais même la technologie, elle ne peut pas résoudre toutes les questions. On voit bien, même du climat. Ça peut améliorer, mais bon.
Il y a un fil conducteur sur tous les thèmes de cette émission aujourd'hui. Hein, on revient à la même chose.
Non, mais les lobbies industriels.
Oui, non, mais ici, parce qu'il y avait plein d'alternatives qui auraient pu être bénéficiaires du moyen de développer, que ce soit tout ce qui est solaire, tout ce qui est électrique, mais même les biocarburants,
il y a aussi l'hydrogène,
les moteurs magnétiques là, il y avait eu
le train au Japon,
voilà,
je me rappelle,
hein, là-dessus, enfin il y avait plein de choses, ouais. Mais moi je voulais ramener le débat quand même à quelque chose de pratique, c'est-à-dire l'installation des bornes, en fait, des bornes électriques. Alors je sais que dans les nouvelles résidences qui se construisent, c'est un paramètre qui est pris en compte aujourd'hui dans les parkings, installer une borne chez soi. Mais aujourd'hui, il y a plein de vieilles résidences ou chez soi, la maison, je pense que c'est un peu plus facile, mais dans les immeubles, où on avoir une voiture électrique et pouvoir installer une borne électrique. Est-ce qu'on est aidé dans ce sens? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je ne sais pas si les nouveaux standards sont déjà mis en place, mais ça me semble être une évolution logique là aussi. 2035, plus de véhicules thermiques produits, ça veut dire qu'il va falloir fatalement avoir des bornes de recharge et les stations-service sont vouées à disparaître ou à se transformer.
Tu y crois ça, toi? Je suis encore sceptique, hein, j'attends de voir.
Mais aux États-Unis, il y a bien des routes où on recharge en roulant, donc j'ai envie de dire, on n'a pas fait le tour de toutes les solutions techniques,
non,
certainement.
Il y a plein de solutions technologiques.
Que ça existe, ou que ce soit majoritaire, encore, oui, mais que ça disparaisse, qu'on fasse complètement disparaître les moteurs thermiques.
Il y en a qui éviteront ça, hein, je suis sûr.
Ouais, je suis sûr, mais ça n'arrange pas tout le monde, on en revient au même débat. On est quand même dans une société très très capitaliste, hein, donc.
Mais juste pour terminer, je me permets de terminer ce débat. En France, on a quand même la chance d'avoir une première ministre qui est branchée, quand même, Elisabeth Borne.
c'est vrai qu'il y avait besoin.
J'aurais pas osé.
J'ai pas résisté quand même. Donc,
il est en forme, hein.
Ça clôt le débat, on est d'accord.
On n'aura pas mieux.
Je sentais que la moutarde lui montait au nez.
Je trouve quand même que c'est une blague qui dépasse un peu les bornes. Hein. S'attaquer au Premier ministre.
Bon. Non, je ne le valorise. Hein,
je vous propose d'enchaîner avec une chanson de Jean Gabin, interprétée par Patrick Bruel, « Quand on se promène au bord de l'eau » et on se retrouve tout de suite après. Merci.
Pas en électrique, on risque de s'électrocuter.
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie tient. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul
connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin.
Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau.
Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons.
L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher.
Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert.
Un seul
c'était Patrick Bruel avec Quand on se promène au bord de l'eau. C'est vrai qu'on se voit bien bras dessus là et
tout le monde l'a vu cette séquence. Enfin, quand il danse dans une guinguette, ce film La Belle Équipe, où il y a toute une bande d'ouvriers qui veulent construire leur guinguette et tout ça. Bon, après il y a des problèmes de copains, de copines, voilà.
La vraie vie, quoi.
Ouais, c'est vrai, oui, c'est la vraie vie.
Et je pense juste, La Belle Équipe, ça fait penser au bar. C'était un bar à Paris, La Belle Équipe, où il y a eu au moment du Bataclan.
Ah, c'est possible.
C'était La Belle Équipe. Je me souviens, un des bars, c'était La Belle Équipe. Je me demande si c'est pas en référence.
Certainement.
Ouais.
C'est pas ce qui a motivé le choix du personnage mystère. Bon. Est-ce que vous avez des choses, vous, à raconter sur Jean Gabin, qui était quand même un monument?
Je dis qu'il a souvent eu des rôles complètement différents parce que, je veux dire, bon, il avait toujours un petit peu cette gouaille et tout ça, mais je veux dire, c'est vrai que quand on a entendu la séquence tout à l'heure avec Michel Morgan dans Quai des Brumes, bon, c'était vraiment pas le petit jeune, mais enfin bon, il était né en 1904, donc le film est de 39, bon, il avait quand même 35 ans déjà, mais je veux dire, malgré tout, il avait une voix douce et tout ça, mais malgré tout, on sentait que c'était le petit loulou, quoi.
Alors, une voix douce avec une voix de titi parisien, quand même.
C'est vrai
que c'était très musical des années 30, quoi.
T'as de beaux yeux, tu sais, je veux dire, on sent qu'il est tout doux, quoi.
Et tu disais aussi tout à l'heure qu'il avait de beaux yeux bleus, c'est vrai que au début du cinéma, on n'en a pas profité.
Hein. Non, la mais couleur, on s'en doutait. Enfin, non, je me rappelle pas.
On s'en doutait. La couleur, c'est les années 50, hein, pas avant.
Ah non, tu rigoles. Bien avant. Fin des années 30.
Fin des années 30,
bien sûr.
Des films
autant
au cinéma.
N'importe le vent en 1939, sans belle couleur.
Ouais, autant N'importe le vent avec O'Hara.
Bien sûr.
C'était en blanc noir, non?
Non, c'est en couleur.
Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir vu en blanc noir, je sais pas.
Ah ben peut-être que tu l'as vu quand il y avait une télé. Oh, vous étiez même pas né la télé.
j'ai connu des télés blanc noir.
Le premier film en couleur, mais je veux dire, il y en a eu pas mal, mais pour moi, le premier grand film en couleur, c'est Autant d'emportements, parce qu'avec ce rouge, cet incendie et tout ça, c'est vrai.
Moi je vois la génération des années 50 70 Gabin d'ailleurs c'est ça sonnait quoi Gabin et puis c'était quand même il était vécu comme étant un des grands quoi du cinéma hein, c'est clair hein.
Bah comme on a dit après avec Johnny Hallyday c'est le taulier, c'était le patron quoi,
c'était le patron c'est ça
dedans, hein.
Et c'est une référence intergénérationnelle. Alors, je le disais hors antenne tout à l'heure en cherchant les morceaux pour cette émission. Je suis tombé sur un rappeur, hein, donc à peut-être 25 ans, qui s'appelle MC Jean Gab. Et il reprend en rap des textes de Gabin. Et dont une chanson que j'ai pas voulu vous faire passer, mais je t'emmerde. Alors, je la connais pas cette chanson, mais il l'a chantée. J'ai pu la trouver. Mais c'est vrai que c'est étonnant comme artiste. Il pouvait tout se permettre finalement. Il n'y avait pas grand monde pour le contredire.
Mais pourtant, attention, il a fait plein de films où c'était pas, il n'y avait aucune vulgarité. Il n'y avait pas bon, maintenant, on utilise tous les mots. Hein. Aucun mot est interdit. Hein. Mais en ce temps-là, non, c'était jamais très grossier. Hein. Pas vraiment.
Alors, à partir de quand on a filtré d'après toi? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, de toute génération, on avait un franc-parler. Hein.
Oui, mais je te dis maintenant, oui, non, il y a des choses qui se disent, c'est beaucoup. Alors, contrairement, et il y a d'autres trucs qui sont interdits. Il y a des trucs qu'on faisait avant, hein, et par exemple les mecs qui fumaient, mais maintenant ils évitent, hein. Ah, oui. Ou alors c'est des films dont l'action se passe dans les années 60, 70, 50 et tout ça. Mais l'atmosphère enfumée, ça n'existe plus maintenant.
Oui. Mais c'est beaucoup plus policé, c'est plus politiquement correct. Hein.
Mais au niveau du langage. Avant, c'était beaucoup plus, je sais pas, un merde, oui, il y en avait, ouais, mais voilà, ce genre de c'était les gros mots comme ça, mais il y avait pas les gros mots maintenant qu'on entend, évidemment. Bon, le langage évolue, hein.
Les valseuses, c'était pas très.
Alors, ouais, là, tu parlais d'une période récente quand même, là, hein. Même, et pourtant, le film a 50
déjà,
ans. Hein.
Les valseuses, ça commence déjà à être très contemporain quand même pour moi.
C'est contemporain.
Avec le même tir au but avec Patrick Devers, c'était pas choisi comme vocabulaire. Enfin, c'était cru. Et oui, bon, après, tout se perd. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus de saison. Mais
madame.
Non, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Bon, et on va passer le prochain morceau de l'émission. C'était une bande originale de film, et je pense que vous allez facilement la retrouver. C'est Serge Gainsbourg qui l'a interprété, un requiem pour un con.
Ah oh.
Alors, le titre du film?
Toujours pareil. Ça doit être Le Pacha.
On est bien d'accord. Tu l'avais, Ricardo?
Non, je l'avais pas.
Eh bien, bravo, Jean-Jacques.
C'est après qu'il ait dit que je l'ai retrouvé.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même. Pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Cette terre-là, j'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même.
Alors, Alors une fois de plus, je dirais, c'est une très belle programmation.
Félicitations.
Bravo au personnage mystère. Hein. Il nous a inspirés. Et j'espère qu'il aura inspiré un petit peu les auditeurs aussi, parce que un tel monument, ça fait du bien de se le remémorer de temps en temps. Et alors moi, pour la confidence, hein, je suis né en 74, et donc 76, il fait pas partie de mon histoire, mais malgré tout, c'est un personnage incontournable. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous avez des informations à passer à nos auditeurs ?
On les aime beaucoup.
Oh là, je me suis pris un vent. Alors moi, j'ai deux informations à transmettre. Le premier va être cinématographique, justement, avec une association. Alors, les cinémas du monde, c'est des choses qui vous rappellent quelque chose, Jean-Jacques et Marc?
Cinémas du monde, oui.
Bon, aujourd'hui, c'est rebaptisé un petit peu Terre d'Horizon. Et ils ont une programmation qui est bien fournie, puisque le 16 novembre, par exemple, il y aura des films sur les Comores et Mayotte, et le 7 décembre sur l'Himalaya. Et je trouve que c'est toujours chouette d'aller voir des cultures.
Ça s'appelait Cinéma du Monde autrefois ? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je me rappelle, c'était le genre de truc où on sortait en famille, on allait voir les connaissances du monde.
Connaissances du monde à l'époque, oui.
Bon, autant pour moi.
Et en fait, et c'est là qu'on découvrait par exemple les Mahusiers. C'était une famille, les Mahusiers, qui... il emmenait toute sa famille.
Ils voyageaient.
Ça. Ils voyageaient.
Découvraient les.
Ah, c'est marrant, ça. Il y a des années que j'ai pas entendu parler de ça. Oh, cette programmation est extraordinaire.
Et alors, j'espère qu'on recevra la personne qui est responsable du développement de Terre d'Horizon, hein, qui fait ses films de voyage et d'aventure. Parce que, effectivement, je trouve que c'est du partage culturel. À l'heure où prendre l'avion, c'est écologiquement pas responsable. Et surtout, on n'a pas tous les moyens. Ça permet, effectivement, de découvrir d'autres cultures. Comores et Mayotte, le sous-titre, c'est Archipel insoumis. Toute une promesse. Et puis Himalaya, le sous-titre, c'est Les semeuses de joie. Donc je trouve que c'est une bonne chose de faire. C'est pratiqué au cinéma Le Pâté à Angers. Donc pour une modique somme, hein, je crois qu'on est sur des séances à 8 € pour les étudiants. ou 9 € pour le tarif normal. Donc ça reste raisonnable pour passer un temps
mais
de
alors,
découverte.
Quand c'était Connaissance du Monde, il y avait justement le metteur en scène et puis les gens qui... Ça sera pareil ou pas, tu sais ?
Alors on laissera le responsable nous décrire l'action, mais je crains que ce soit pas autant développé que ça. Le deuxième événement dont je voulais vous faire part, c'était les fêtes de fin d'année des seniors qui sont organisées par la ville d'Angers. Il y a toute une animation qui est organisée le jeudi 1er décembre à partir de 15h à Amphithéa 4000. Et c'est quelque chose qui va être complet, hein, de 15h. Et il y a même un spectacle et cocktail dînatoire, donc ça dure jusque dans la soirée. Donc c'est quelque chose qui est payant, mais j'imagine que c'est une activité qui peut être bien agréable dans ces temps où on a besoin de se distraire aussi beaucoup et puis d'aller à la rencontre des autres. Voilà les deux informations que je voulais moi vous divulguer. Quelle autre information on peut donner à nos auditeurs, hein? Oh là là, il va falloir retravailler l'agenda. Hein. Bon.
Non mais les associations, on a tellement de travail. On a tellement de choses à faire et
on va charger.
Et on les fait bien.
Oui, on va charger Marc de nous rappeler que les associations ont aussi besoin de bras et de têtes.
Ah bah tout à fait, oui.
Les bénévoles.
Plus que jamais parce que les besoins sont importants et malheureusement souvent les disponibilités sont pas là. Donc il y a seulement ce que je peux évoquer, c'est il y a une journée du bénévolat qui se prépare au mois de décembre, hein, c'est une journée mondiale du bénévolat. La date de mémoire, je crois que c'est le 5 décembre, mais bon, je le confirmerai là, je suis pas sûr de moi. Mais bon, c'est aux environs du 5 décembre. Et le thème que nous on va proposer, c'est le bénévolat illumine la vie.
C'est une belle promesse.
Voilà.
Je prends. Bon, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour votre émission préférée. Il est l'heure, Monseigneur. Merci Marc. Hein.
Merci. Merci Raphaël. Merci. Bonne semaine aux auditeurs.
Merci Ricardo.
Merci Raphaël.
Et merci Jean-Jacques.
Merci Raphaël. Au revoir tout le monde.
À bientôt.
À bientôt.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous
quelques bons copains.
Il y avait Fernand, il y avait Firmin,
il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes.
Radio G. 101.5 FM.
Me.